I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. L'heure de vérité est là. Ouais, elle est là devant nous. Le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont à un match d'une finale de Ligue des Champions. À un pas de Wembley, on a donc deux équipes qui, si elles sont parfaitement honnêtes avec elles-mêmes, n'étaient pas programmées pour être là en début de saison. Ce PSG, ça devait être sa saison de transition. Borussia Dortmund est 5e de Bundesliga. C'est pas forcément ce qu'on attendait ici à ce stade. Pourtant, ils sont là. À une marche de l'histoire, ils sont là. Est-ce que le Paris Saint-Germain va vivre enfin son grand rêve? Est-ce que Dortmund peut faire un des grands parcours européens du 21e siècle? Imaginez s'ils vont au bout. Cette saison, ce serait quand même très très spécial. En attendant, qui ira à Londres? Demain, on parlera d'une rencontre. Bon, là, on a deux clubs qui sont généralement programmés pour être là. Là, c'est moins une surprise. Bien sûr, demain, on parlera de Bayern Munich-Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est Paris-Dortmund. Le Paris Saint-Germain qui, malgré sa défaite à l'aller, est toujours le favori des bookmakers sur la victoire en 90 minutes. C'est même assez net. Ils sont à 1,50. 90% des gens partent sur eux. Dortmund est à 5,60 pour faire une double victoire. Sur la qualif, Paris à 1,60, Dortmund à 2,25. Donc quand même une nette différence, mais l'écart s'est bien bien resserré par rapport au match aller. On va parler de ces deux équipes, on va évoquer tous les problèmes qui attendent le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, comment les résoudre, et à la fin bien sûr, je vous donnerai mon petit prono. Mais d'abord on va commencer par Dortmund, et je vais dire un truc assez clair. Dortmund n'a pas été respecté à la juste hauteur cette saison, et par une personne déjà, c'est moi-même. Sur la chaîne en tout début de saison, quand ils avaient été tirés dans le groupe du Paris Saint-Germain avec Milan, avec Newcastle, je les mettais dernier, quatrième. Je ne pense pas que j'ai véritablement manqué de respect dans les termes, je ne pense pas avoir été condescendant ou méprisant, mais on les mettait quand même dernier de ce groupe, alors qu'ils étaient dans le deuxième chapeau. C'était la position qu'on leur imaginait. Ils m'ont surpris, déjà personnellement. Et après, ils ont surpris peut-être l'autre soir, le paysage du commentaire sportif français, où j'avais trouvé quelques... Ouais, j'en avais parlé un petit peu dans le débrief du match aller, des commentaires un petit peu... C'était plus que confiant, c'était un petit peu méprisant même sur certains joueurs. Je pense par exemple à Ryerson en début de match, qui a pris tacle après tacle, j'ai pas trop compris pourquoi. Même Schlotterbeck, après j'ai vu aussi sur les réseaux des trucs, là c'est moins les médias classiques, mais des trucs sur Mats Hummels. Bon, je pense tous ces gars de Dortmund méritent plus de respect que ce qui leur a été donné. On en parlait un petit peu dans cette vidéo que j'avais fait attention à Dortmund il y a quelques semaines, au moment du quart de finale contre l'Atlético Madrid. On revenait ligne par ligne, joueur par joueur. Bon, on montrait que c'est des gars inconstants, c'est pas forcément top calibre à toutes les positions, mais ils méritent plus de respect que ce qui leur a été donné jusqu'alors, et certainement pas de mépris. Ryerson a fait un match très très correct, Schlotterbeck a fait même un très bon match, que ce soit avec ballon, c'est le passeur décisif, mais même sans, sur la protection de la profondeur, la protection de surface aussi, Achraf Hakimi n'est pas trop passé face à lui. Ouais, c'est des bons joueurs. Mats Hummels, sur ces derniers mois à peu près, qui sont d'ailleurs peut-être ces derniers mois tout court dans le monde, le paysage footballistique, bah, il est un des meilleurs centraux de la planète. Alors ça ne veut pas dire dans l'ensemble, à tout moment, dans toutes les configurations, mais sur les 2-3 derniers mois, si on regarde son match contre le Bayern par exemple, qu'on avait analysé l'autre jour, c'est très très haut niveau. Donc ouais, cette équipe mérite plus de respect, elle l'a prouvé au match aller. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils ont les arguments pour reproduire la performance au retour et se qualifier, aller en finale de Champions contre le Bayern à Wembley, un remake de 2013, contre le Real Madrid, ce qui sera un remake de la demi-finale avec le quadruplé de Lewandowski, après le quart contre Malaga de cette grande campagne 2012-2013. Ça, c'est le challenge qui attend le Borussia Dortmund. Il y a des performances dans ce match aller Pour les reproduire, ça va être compliqué. Jadon Sancho, il a quand même passé 12 dribbles sur 17 tentés. Et même, j'ai vu que Sky Sports avait mis 13, ce qui fait de lui la troisième meilleure performance offensive en dribble réussi par match de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière deux perfs de Neymar d'ailleurs, une Barça-Juve et une Paris Saint-Germain-Atalanta, bien sûr. Donc, est-ce que Sancho peut refaire ce match-là? Bon, ça va dépendre aussi de comment s'aligne le Paris Saint-Germain sur ce couloir gauche. Est-ce que Nuno Mendes va être un petit peu plus aidé par Bradley Barcola? On va parler des chantiers du Paris Saint-Germain très vite. Est-ce que Karim David Adeyemi peut reproduire la même performance défensive de grande classe que ce qu'il a fait l'autre soir? Ou, ouais, bah, ça passait pas dans son couloir. Il y a pas mal d'éléments, même un Niklas Füllkrug par exemple, moi j'ai toujours trouvé intéressant dans le jeu de déviation, mais là il marque un but avec un enchaînement technique de très haute volée, est-ce qu'il peut reproduire ça? Est-ce que Sabitzer, Brandt, qui je trouve ont été vraiment pas mal, interverti de position, les petites déviations à l'intérieur du jeu, même pour lancer les transitions, tout le monde a été entre 7 et 10 sur 10 pour Dortmund à l'aller. Refaire ça, refaire cette performance collective émouvante, refaire ce grand match de foot, c'est un certain standard. Pour le reproduire, ça va pas être simple. Mon idée, un petit peu avant le match, après le match aller, dans le débrief de l'aller, c'était de dire, t'as fait tout ça, à la maison, et pourtant, tu l'emportes que 1-0, le différentiel. C'est qu'un seul but que tu ramènes au match retour, en ayant concédé énormément d'occasions. Paris touche deux fois les montants, il y a cette énorme occasion d'Ousmane Dembélé. Bon, il y a eu tellement de choses générées en face, et maintenant tu vas devoir te déplacer au Parc des Princes avec un avantage d'un seul but seulement, et pourtant ça a été fait avec une top perf. C'est pas forcément la meilleure position dans laquelle être, je trouve. Donc je reste pas forcément hyper optimiste pour cette équipe, mais par contre elle a montré qu'elle était capable d'élever son standard de performance à un niveau qui n'était pas forcément celui qui pouvait être imaginé quand tu perds 4-1 contre Leipzig par exemple, quelques jours plus tôt. Et ce week-end d'ailleurs, ils jouent Augsbourg, mais ils n'ont pas besoin de faire jouer qui que ce soit parce qu'ils sont déjà un petit peu largués pour la course au top 4 justement en ayant perdu contre Leipzig, et de toute manière la 5ème place qualifie pour la Champions grâce à cette victoire d'ailleurs. Mathématiquement c'est ça qui fait que la 5ème place en Allemagne qualifie pour la Champions de l'année prochaine. Donc assez dingue, comme quoi gagner une demi-finale aller peut te qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ça c'est une nouvelle configuration. En tout cas tout ça pour dire que contre Augsbourg ce week-end ils peuvent faire totalement tourner, et c'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre cette vidéo vendredi soir. Donc on n'est pas dimanche comme d'habitude. Vendredi soir, j'imagine qu'il n'y aura pas de blessure contre Augsbourg. Bon, bah sinon, vous ne verrez jamais cette vidéo. Je vais devoir tout refaire ou ajouter un petit élément. Et voilà, Dortmund peut faire tourner ce week-end. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas qu'ils peuvent faire tourner. C'est que la Ligue 1 a même retiré le match qui était prévu initialement. Donc 6 jours de repos complet. Franchement, pour les deux équipes. Parce que pour Dortmund aussi, ça va être une configuration similaire. J'imagine donc que côté Borussia Dortmund, on aura le même 11. Je ne vois pas vraiment de raison qu'il y ait de changement. Cette équipe a montré à quel point elle pouvait être performante. C'est de toute manière le 4-2-3-1 assez classique, à part Daniel Malen, mais il ne sera pas remis de blessure. Mais sinon, cette saison, il y avait un peu plus de Daniel Malen que d'Adeyemi, par exemple. Mais sinon, ouais, ça, c'est l'équipe. Et ça, c'est l'équipe que j'imagine alignée au match retour. Donc, voilà pour Dortmund, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, à l'aller, n'a pas fait un bon match, n'a pas fait un match exécrable non plus. Peut s'estimer un peu infortuné, un peu malheureux de repartir avec une défaite. Donc, il y a des chantiers par contre beaucoup plus significatifs que Dortmund pour ce match retour. Le premier, il est clair, et c'est peut-être la grosse mauvaise nouvelle de cette année, c'est la sortie sur blessure de Lucas Hernandez qui s'est fait les croisés, qui va rater l'Euro avec l'équipe de France, terrible en vrai. Ça fait vraiment bader le secteur défensif des Bleus, avec Mike Maignan qui va revenir de blessure, quelques autres gars qui sont pas en grande forme, ou pas Mécano par exemple, qui joue plus trop avec le Bayern en ce moment, ça fait un peu flipper. Mais pour le Paris Saint-Germain, ça signifie surtout le remplacer là à court terme. Est-ce que c'est par Beraldo qui est celui qui est entré en cours de match? Donc j'imagine que c'est encore l'option privilégiée de Luis Enrique, mais Beraldo, depuis la Real Sociedad, où il avait fait cette superbe passe, où il avait été très intéressant pour ressortir sous pression, contre le Barça, il s'était fait totalement dominer, maîtriser par Robert Lewandowski. Niklas Füllkrug est aussi un gars qui peut être cherché sur du jeu long pour le jeu en déviation. Donc Beraldo sur Füllkrug, ça, c'est pas la meilleure configuration tactique, je pense. Skriniar, bon, le niveau de jeu est un peu catastrophique depuis un moment maintenant. Il y a eu beaucoup de blessures aussi. Donc pour moi, il est le troisième dans la liste. Danilo Pereira, peut-être. Peut-être Danilo Pereira. J'imagine que ce sera entre les deux. Aujourd'hui, je ne sais pas si je ne mets pas Danilo Pereira et plutôt Beraldo en backup, voire peut-être est-ce que Luis Enrique, Nuno Mendes qui a pris une dizaine de dribbles sur son couloir par Jadon Sancho, est-ce que Luis Enrique préfère jouer avec même trois défenseurs centraux et faire un petit peu plus le 3-2-5 qu'on connaît, qu'on a vu sur le début de saison, avec Hakimi dans le demi-espace, Dembélé long de ligne, parce qu'un des chantiers tactiques, ça va être, oui, ça va être clairement l'utilisation de la largeur. Donc je pense, si je devais absolument parier, je pense que Nuno et Hakimi seront titulaires, je pense qu'on aura effectivement deux latéraux. Mais l'utilisation de la largeur, il va falloir voir totalement autre chose. Il y a une petite question sur Fabian Ruiz aussi, parce que le niveau de performance est vraiment pas fou. On l'a vu aussi avec quelques grosses occasions ratées. Il n'est pas vraiment un 8 qui peut scorer dans un match où il faut remonter un score. Est-ce que tu préfères pas mettre quelqu'un d'autre? Mais Kanginli, je sais pas vraiment si c'est l'option qui s'impose. Ça pourrait être quelque chose. On a aussi du Marco Asensio qui est, généralement a été bien apprécié par Luis Enrique dans les matchs couperets, même si bon bah c'était contre le Barça à la première mi-temps où il avait été totalement invisible. Nuno Mendes, Beraldo, Marquinhos, Hakimi, ça c'est la ligne de 4 que j'imagine. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire un gros taf sur la largeur. Le premier, c'est Dembélé. En 10 à l'aller, sur la première mi-temps de l'aller, ça n'a pas du tout marché. Et il y avait beaucoup trop d'espace, par exemple, pour Ryerson là, pour sortir ici. On l'avait analysé dans le débrief, c'était beaucoup trop facile pour Dortmund d'exploiter les flancs et d'aller se projeter dans la moitié de terrain adverse avec par exemple un Nuno Mendes qui était un petit peu obligé, qui était un peu fixé par la position haute de Jadon Sancho. Mais du coup, s'il n'y a personne sur les couloirs, s'il n'y a pas de Barcola là et de Dembélé là, c'était compliqué, Dembélé qui était un peu plus sur Emre Can, compliqué de protéger l'accès au but parisien, l'accès à la moitié de terrain parisienne en tout cas. Donc, quelque chose que j'ai envie de voir davantage, c'est un 4-3-3 vraiment beaucoup plus classique, avec deux gars sur les côtés. Et j'imagine, un petit peu comme ce qu'on a vu Adeyemi faire contre Paris, bah Barcola assister Nuno Mendes pour faire face à la menace de Jadon Sancho. Si Sancho est capable de reproduire une rencontre, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas, c'est pas certain, mais s'il est capable de reproduire une rencontre comme à l'aller, il y a besoin de plus d'aide défensivement. Je pense que le travail défensif d'un Bradley Barcola, s'il est effectivement titularisé, parce qu'il a été un petit peu en difficulté, mais ça ne devrait pas quand même, je pense, conduire à changer, bousculer tous les plans d'ici là. S'il est quand même titularisé, j'ai envie de le voir aider davantage et protéger davantage par rapport à la menace de Jadon Sancho. Donc ça, c'est le deuxième point tactique. Le premier, qu'est-ce que tu fais de la blessure de Lucas Hernandez? Le deuxième, la protection de la largeur un petit peu plus sur l'aspect défensif. Et le troisième, donc, l'animation avec un Dembélé beaucoup plus large. On a vu par exemple quand il était capable d'attaquer en un contre un et qu'on a eu les flèches parisiennes, Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Barcola, Mbappé se projeter dans le grand espace et sur des moments de transition, sur des corners de Dortmund par exemple, où ça percute derrière, là c'était les moments les plus dangereux. Je pense que c'est au bout d'une occasion comme ça, une situation comme ça, où Mbappé qui est décalé ensuite à la frappe qui heurte le montant, ça revient sur Hakimi aussi qui a réussi à se projeter. Ça commence à partir du moment où tu as des gars qui sont là en un contre un, qui peuvent attaquer sur leur flanc dans des espaces plus larges et donc plus vastes à exploiter. Et ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Donc, les trois caractéristiques tactiques claires pour moi du Paris Saint-Germain. Et enfin, peut-être le bonus, c'est les entrants. Les ajustements en cours de match, c'est toujours quelque chose d'important pour Luis Enrique. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec tout le monde. Gonçalo Ramos, qui n'a pas joué la moindre minute de l'aller dans une rencontre où tu dois planter, vu son niveau de performance actuel, c'est toujours difficile de dire, ouais, il se serait passé ça, etc. On ne peut pas vraiment le savoir. Mais c'est vrai que ça semble être une meilleure option. Donc, à un moment, peut-être qu'il va falloir mettre le pouce sur la balance, infléchir ce match, marquer le point d'inflexion de ce match avec des entrants à la hauteur. Et Gonçalo Ramos pourrait avoir un rôle déterminant dans cette partie. Donc voilà à peu près où on en est. Normalement, tout le monde, si personne ne se blesse à l'entraînement, tout le monde est là. Il est l'heure du prono. Mon idée, c'est que Paris est en général bien meilleur au retour qu'à l'aller. Et aussi meilleur en seconde période qu'en première. C'est un petit peu le truc de ce Luis Enrique, de ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui s'ajuste énormément. Si on regarde les cotes, comme on l'a dit, le PSG est à 1,50. Bon, le Real Madrid est très très favori aussi contre le Bayern, 1,88. Mais PSG à 1,50 sur la victoire en 90. La qualif est à 1,60. Qu'est-ce qu'on a? PSG et les deux équipes marquent à 2,60. Voilà, toutes les cotes que vous voyez ici, bien sûr, comme vous savez, c'est celles que vous trouvez sur Winamax, qui est mon sponsor, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le lien en description. C'est l'offre qu'on a montée, l'offre spéciale Winamax Willou, la meilleure de France. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en paris gratuit et vous recevez aussi 10 euros en cash. Donc si vous mettez 15, quel minimum, ça devient tout de suite 30, plus 10 encore, 40. Votre dépôt initial de 15 euros est devenu 40 euros avec lesquels vous pouvez parier sur ce match, sur d'autres, à diviser entre les deux demi-finales de Ligue des Champions. Peu importe, tout ça donc, c'est avec le lien, un lien qui débloque le bonus et qui me rémunère à chaque utilisation. Merci à tous ceux qui l'ont fait par le passé, qui continuent de le faire, c'est un vrai vrai soutien. Et si vous le faites, merci. Mais bien sûr, sachez que c'est strictement réservé aux majeurs, interdit aux mineurs. Et faites attention, déjà, pas nécessaire de parier pour prendre du kiff devant ces matchs. Et aussi, faites attention, pariez plutôt des petites sommes. On a vu à l'aller, et je pense sur tous mes pronos de ces matchs de Champions en tour à élimination directe, que c'est assez compliqué à lire. Mes pronos, je pense, sur cette campagne sont vraiment pas bons. Aussi, faites peut-être plus confiance à vos sensations, vos intuitions. Je vais dire, j'espère que mon prono sera bon pour le PSG, parce que je pense quand même que je vois le PSG le faire. Alors j'ai beaucoup aimé la performance de Dortmund à l'aller, comme j'ai dit un petit peu dans le débrief, je suis pour le club français, j'ai envie que le PSG aille en finale, j'ai envie que le PSG gagne sa Champions, depuis un moment maintenant, en tant que supporter de l'OL, je dois dire, et ça n'a pas toujours été le cas, mais là depuis quelques saisons, franchement, j'ai envie qu'ils aillent au bout, et je pense qu'ils ont montré à l'aller que dans une rencontre où tu perds, tu souffres, ils ont quand même produit énormément et maintenant ils reviennent au parc. Ils ont beaucoup d'arguments pour le faire. Donc je pense qu'ils le font. Par contre, ils n'ont plus de marge. C'est ça le truc qui est, je trouve, terriblement excitant dans ce match. Pour moi, il n'y a plus de marge de sécurité pour le PSG. Parce que peut-être que dans un monde où tu as remporté légèrement le match aller, tu as fait match nul, tu peux te satisfaire d'un match 6 sur 10 pour passer. Là, aujourd'hui, pour moi, pour le PSG au Parc des Princes, il faut un match 8 sur 10. Et si Dortmund fait un match 8 sur 10, il faut un match 9 ou 10 sur 10. Il n'y a plus de marge, il va falloir une très grosse performance. Tu ne peux pas te qualifier avec quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Donc ça, c'est le petit twist. Le PSG doit sortir une très, très grande performance pour le faire. Je pense qu'ils sont favoris, ils ont raison d'être favoris. Je pense quand même qu'il l'emporte, alors je vais dire 3-1 en 90 minutes donc, mais avec Dortmund qui marque le premier but. Donc je ne sais pas si j'imagine qu'on a la cote ici. Équipe qui marque le premier but, Dortmund à 2,70. Je vois Dortmund mettre un gros coup de froid au Parc des Princes et après une rencontre for the ages, comme on dit en anglais, une rencontre pour l'histoire qui entre dans la légende, qui devient tout de suite une des plus grandes soirées de l'histoire du Paris Saint-Germain en Champions. 1-0 pour Dortmund et derrière une folie. 3-1 en 90 minutes. Je pense que si ça va prolongation, ça va, c'est pas trop mal. Le PSG a plus d'armes sur le banc, d'armes offensives, même si j'aime bien le petit Jamie Bynoe-Gittens par exemple, côté Dortmund. Mais le PSG a plus d'armes et un effectif un petit peu plus fourni que Dortmund. Par contre, si ça va au tir au but, là je suis pas extrêmement rassuré. Donnarumma c'est pas mal, dans les buts Donnarumma c'est pas mal, c'est plutôt un bon stopper de pénaux. En plus il a vécu des séances de tir au but avec succès de gros, très haut niveau de pression, l'Euro 2021 par exemple. Par contre sur les tireurs je suis un peu moins rassuré, j'ai posé la question sur Twitter si ça va au tir au but, qui est-ce que vous faites tirer côté parisien? Moi je mets Mbappé c'est clair évidemment, il faut penser aussi aux gars qui seront sur la pelouse à ce moment du match, je mets Mbappé c'est sûr, il a montré que tous les pénaltys sous pression là depuis l'Euro 2021 justement ça va, il est ok. Un gars qui en met 3 en Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Aussi bah, l'autre jour contre Newcastle, le Barça, etc. Donc ouais, Mbappé, j'ai plus aucun doute. Après, je pense Vitinha pour sa qualité de frappe. Gonzalo Ramos qui devrait être sur le terrain à ce moment-là du match, normalement. Mais ça en fait que 3 et derrière, je sais pas trop, j'avoue. Asensio, Kang In-Lee, peut-être. Hakimi, il en avait marqué un en Coupe du Monde, la Panenka contre l'Espagne, mais il en a raté un très très récemment en Cannes. Il en a tiré 2 en match en Coupe d'Afrique. Les deux ratés, un en CAN et l'autre peut-être en qualif africaine de Coupe du Monde, mais les deux ratés, aucun marqué en match directement, donc Hakimi c'est pas un splendide tireur de pénalty. Marquinhos, il rate le décisif contre la Croatie et je pense lui il voudrait en tirer un en plus, donc je suis pas très rassuré pour Paris si ça va au tir au but, je pense qu'il faut le faire, je pense qu'il faut le faire en 90 minutes, donc je vois 3-1 sur les buteurs. Alors ça j'ai pas du tout réfléchi pour l'instant. Vous savez que j'aime bien le petit Ousmane Dembélé, mais je crois qu'ils sont pas encore affichés pour l'instant, donc Ah, je dirais Kylian Mbappé et Vitinha pour deux débuts. Et le reste, on verra. Mais je pense que Paris le fait à la fin. Je pense que j'ai aussi évoqué pas mal de raisons et d'analyses dans mon débrief du match aller. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Je pense que Paris le fait, mais ça va être génial. Et j'aime bien ces matchs où ça l'aller est mercredi, le retour mardi. Comme ça, on n'a pas le temps d'attendre. C'est immédiat. Ça va être génial. Moi, j'ai hâte d'y être. Je reste un neutre, même si je souhaite la qualif du PSG. Fondamentalement, je reste un neutre. Mon seul club, c'est l'OL. Donc, ce match, c'est popcorn, quoi. Ça va être extraordinaire. Hâte d'y être. Bien sûr, on sera là pour le débriefer à peu près une heure après le coup de sifflet final. Et j'espère que vous serez là aussi. Prenez soin de vous, les amis. Passez un excellent, excellent dimanche. Et bon, on se dit... Bon, lundi, il y aura quelque chose d'autre, mais rendez-vous mardi, ça, c'est sûr. Mardi minuit, pour voir si Paris ou Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Prenez soin de vous les potes et à bientôt. Bisous.